Aujourd'hui, la ville de Mexico est l'objet de toutes les attentions des archéologues, puisque sous la métropole de 20 millions d'habitants, vivant à plus de 2000 mètres d'altitude, se cache le passé d'une cité édifiée au cours du XIVe siècle, peut-être même en 1325 d'après les codex mythiques, une ville qui fut la capitale d'un empire le plus vaste d'Amérique. Conquise le 13 août 1521 par Cortés et ses conquistadors, la cité de l'empereur Montezuma, la fameuse Tenochtitlan, puisque tel est son nom, est alors rapidement rasée pour édifier la Mexico hispanique et coloniale. Oublié, ce passé a été entrevu à la fin des années 70. Et depuis plus de 40 ans, un vaste programme de recherche œuvre à son exhumation. C'est sur le Temple Mayor, le grand espace sacré et cérémonial de Tenochtitlan, que des découvertes extraordinaires se sont enchaînées, nous permettant de percevoir la société et les religions des Aztèques. J'ai d'ailleurs appris, en préparant cette émission, que le mot « Aztèque » devait être banni au profit de celui de « Mexica ». Pour preuve, il s'agit du titre de la grande exposition du musée du Quai Branly qui vient d'ouvrir ses portes. Pour en parler, Steve Bourget, bonjour.
Bonjour.
Œuvrant sur les sociétés complexes de Mésoamérique, vous êtes actuellement responsable des collections Amérique du musée du Quai Branly Jacques Chirac et êtes bien entendu un des commissaires généraux de l'exposition Mexica des dons et des dieux au Templo Mayor. Steve Bourget, au moment de la conquête, Mexico-Tenochtitlan est une ville hors norme en Amérique, plus grande que Chan Chan au Pérou. Comment doit-on l'imaginer ?
Je crois qu'on doit l'imaginer comme une ville médiévale, c'est-à-dire une grande ville, une ville qui compte près de 200 000 habitants. À la même époque, Paris contient environ la même population, donc c'est à peu près la grandeur de Paris. Peut-être plus propre, je dirais, puisque c'est une ville qui a ses éboueurs, qui est maintenue. C'est une ville qui est organisée selon des quartiers. Donc, il y a des quartiers d'artisans, il y a des quartiers pour toutes sortes de gens, je dirais. Et c'est une ville qui est aussi traversée par des canaux. Donc, c'est une ville avec des ponts un peu partout, un peu comme Venise, je dirais.
Parce qu'elle est construite sur un marais. D'ailleurs, Cortés dira que c'est la Venise de l'Amérique.
Tout à fait. Les Mexicas vont construire cette ville dans une partie insalubre du lac de Texcoco. Ils vont réclamer littéralement deux petites îles et les agrandir au fil du temps pour y construire la grande ville de Tenochtitlan.
La documentation est exceptionnelle avec des codex préhispaniques, des récits, des conquistadors bien sûr, et désormais l'archéologie. Mais qui est le peuple Mexica, les descendants des Aztèques?
Le peuple Mexica, c'est selon les informations que nous avons, qui sont des informations qu'on croisait, je dirais, entre la linguistique, les premiers chroniqueurs sur cette société et les propos des gens qui étaient Mexica juste avant la conquête. C'est un groupe de migrants de langue nahuatl qui viennent de la partie nord du Mexique, qui parle une langue associée à la grande famille Uto-Aztèque, qui va jusqu'à la région du sud-ouest américain, et qui aurait intégré, je dirais, la région des hautes terres du Mexique vers peut-être au début du 13e siècle.
Si ces populations se pensaient mexicains, pourquoi les dénomme-t-on aztèques? Une erreur du 19e?
Une erreur, peut-être pas, mais disons que c'est Alexander von Humboldt qui va en fait reprendre le terme Aztlan, qui est la ville insulaire mythique d'origine des Mexicas, et il va l'utiliser pour créer le mot aztèque, qui est un peu la même construction qu'on retrouve pour d'autres cultures telles que les Olmèques, Toltèques, les Zapotèques, par exemple. Alors, il va publier un livre en français ici au 19e siècle à Paris, et ce livre va connaître un grand succès, et il utilise pour la première fois le mot aztèque, qui va être popularisé très rapidement un peu partout en Amérique du Nord et en Europe. Mais au Mexique, les gens ont toujours connu ce peuple de langue nahuatl comme étant les Mexicas, et c'est mentionné dans les chroniques que Huitzilopochtli, leur dieu tutélaire, leur a donné ce nom. Donc, c'est un nom qui leur a été assigné par le héros ancestral Huitzilopochtli.
Alors nous, en France et en Europe, on connaît tous bien sûr les Aztèques, on ne connaît rien des Mexicains, même si c'est probablement la même chose. Nous voici donc sur un fort enjeu identitaire pour le Mexique bien sûr, et politique, auquel votre musée du Quai Branly contribue aujourd'hui, en reprenant ce mot de Mexica et non pas d'Aztèque.
Oui, disons que le commissaire principal de l'exposition, qui est l'archéologue Leonardo López Luján, qui dirige les fouilles au Templo Mayor...
C'est
notre tlatoani. Et puis, il nous a proposé d'utiliser ce terme-là. Alors, on en a discuté à l'interne au musée, et puis on est rapidement venu à l'idée qu'il était tout à fait approprié d'utiliser Mexica. Il avait fait cette tentative déjà à quelques reprises dans le passé, mais sans succès, notamment avec le British Museum. Mais on a accepté tout simplement, de la même façon qu'on utilise Inuit au Québec plutôt, comme tu le sais. Je te tutoie, hein? Moi, le vouvoiement, c'est pas mon truc.
Et oui, vous êtes Québécois. Oui. Et j'ai travaillé aussi au Canada.
Tout à fait. Oui. Mais et dans la région Inuit, d'ailleurs, que tu as travaillé, donc c'est bien. Mais justement, on n'utilise plus le terme Eskimo, qui était en fait un terme Inou. Donc, c'est un peu la même chose.
Nous, les hommes. L'archéologie, en tout cas, est éminemment politique. Les Mexicains possèdent, eux aussi, un mythe d'origine, capital pour la compréhension de cette société. Tous se disent venant donc d'un lieu, le lieu de la blancheur, Aztlán, c'est bien ça? C'est le point mythique d'origine?
Oui, c'est dans la construction du récit. Je crois que l'archéologie, un jour, va changer plusieurs choses en ce qui a trait surtout au début de la culture mexicaine. On ne sait pas grand-chose, je dois vous avouer, mais on assigne dans les textes, dans plusieurs textes, qu'il y a un lieu d'origine, je dirais, mythique, qui est une ville qui est sur une île. Quelle surprise! Et ils partent de cette ville... car Huitzilopochtli leur dit qu'ils doivent s'en aller, et ce groupe part dans une longue migration qui les amène, semble-t-il, après quelques centaines d'années, dans les hauts plateaux mexicains, et ils y trouvent, sur une île, un endroit pour pouvoir construire la ville de Tenochtitlan. Mais moi, dans ma lecture de ces textes, il y a un passage qui me... En fait, il y a deux événements qui ont lieu, qui sont très importants. C'est qu'après avoir quitté la ville d'Aztlán, ils émergent aussi d'une caverne qui est la caverne de Chicomostoc, qui est en fait la montagne aux sept alvéoles, aux sept entrées. Et il y a cette émergence d'une caverne, autrement dit de l'intérieur de la Terre, qui est inclue dans l'histoire. Alors, il est possible, à mon avis personnel, je le dis tout de suite, ce n'est pas celle du commissaire principal, probablement, que Aztlán est peut-être tout à fait mythique et peut-être localisé plutôt dans l'inframonde que dans le monde des vivants, je dirais.
En tout cas, on a pensé aussi au sud-ouest des États-Unis comme point de départ. Mmh. Et ce qui est très étonnant, c'est que eux aussi ont leur migration pour une sorte de terre promise.
Oui, comme plusieurs, cette construction est une construction assez classique, je dirais. C'est-à-dire que des sociétés qui vont se déplacer et éventuellement se sédentariser avec succès vont souvent reconstruire un passé glorieux dans lequel ils s'inscrivent dans le paysage, je dirais.
Steve Bourget, puisque vous travaillez sur les sociétés complexes, l'Empire mexicain aurait pour fondement une triple alliance entre trois cités?
Disons que les débuts, au début de l'aventure, je dirais, des Mexicains dans les hauts plateaux mexicains, lorsqu'ils réussissent à s'établir dans cette région insalubre, qu'ils vont coloniser, qu'ils vont utiliser et transformer dans la ville qu'on connaît de Tenochtitlan, ils doivent soit se confronter ou se soumettre à des cités-États qui sont déjà fermement établis dans la région. Après la chute, la disparition de la grande cité-métropole de Teotihuacan, ces groupes-là ont monté en puissance. Et c'est dans ce processus qu'ils vont établir, dans la première moitié du 15e siècle, une alliance avec deux grandes villes-cités-États. C'est une alliance pour pouvoir se sécuriser des corridors d'accès vers d'autres régions. Ce sont eux qui contrôlent l'alliance. En fait, c'est eux qui en profitent le plus. C'est eux qui sont les plus puissants. Alors, c'est une alliance qui leur sert pour pouvoir surtout ne pas avoir de problèmes locaux, je dirais, afin de pouvoir étendre la puissance de l'Empire.
Quelle va être l'étendue de cet Empire? Et d'ailleurs, qui vont être les cités-États vassales?
Au fil des années, les cités-États vont changer de nom, mais disons que l'Empire va s'étendre du Golfe du Mexique à l'océan Pacifique, et du nord des hauts plateaux mexicains jusqu'à la région du sud du Yucatan, la région des Mayas. C'est gigantesque. Donc, c'est vraiment très grand. Disons que ça englobe, à l'époque, grosso modo, environ 12 millions d'individus.
Alors, on connaît bien sûr les cités-États. Des cités-États, il y en a quantité. Les Mexicains seront les deux seuls, avec les Incas, à pouvoir créer un empire. Est-ce qu'on est vraiment d'ailleurs sur la définition d'empire?
Bon, oui, voilà. Ça, c'est un problème d'anthropologue, je dirais. Le terme des définitions, c'est un peu... jusqu'à la fin des années 50-60, on avait j'appellerais ça presque une liste d'épiceries, c'est-à-dire on cochait écriture, oui, tel type d'économie, oui, tel type de royauté, oui, et voilà, et on avait soit un empire, une société complexe ou un État. Maintenant, c'est beaucoup plus complexe puisqu'on connaît des sociétés complexes sans agriculture, notamment, sur la côte ouest du Canada. Alors, je dirais que les Mexicas, comme les Incas peut-être, mais à des niveaux différents, les Mexicas, ce n'est pas le premier empire de Mésoamérique. Mais c'est l'empire qui va s'imposer peut-être de la façon la plus éclatante, la plus structurée, et qui va perdurer jusqu'au contact espagnol. Mais il ne faut pas oublier que Teotihuacan, qui va exister environ 100 avant Jésus-Christ, mais mettons cela à zéro, si vous voulez, jusqu'à 600-650, est une société impériale. Ils vont envahir des régions jusque dans la région maya. Ils vont avoir une métropole avec un temple qui est 7 ou 8 fois la grandeur du Templo Mayor. Alors, il y a déjà des empires qui sont en route, qui sont en formation, qui ont existé, qui ont disparu. Et les Mexicas vont non seulement être les derniers grands systèmes impériaux, mais ils vont même se réclamer de la tradition, notamment de Teotihuacan, et après Teotihuacan, de la société toltèque. Alors, ils sont conscients de ce passé prestigieux. Les Mexicas sont des archéologues. Alors, ils vont aller fouiller à Teotihuacan. Ils vont extraire des masques, des objets, et les ramener dans leur temple. Ils vont chercher des objets archéologiques dans la région du Pacifique. Ils vont en chercher des objets olmèques dans la région de Veracruz. Alors, vous voyez, ils sont conscients que le passé supporte politiquement le présent. L'ancienneté valide les prétentions impériales modernes des Mexicas.
Comme en Chine, d'ailleurs, avec les grandes dynasties chinoises qui vont rechercher des objets néolithiques. Évoquons la religion mexica ou mexica. Certains dieux seraient communs à de nombreuses cultures, mais d'autres sont spécifiques à cette société, notamment le dieu du soleil et de la guerre et la déesse de la lune.
Oui, tout à fait. Dans cette fameuse migration, il y a une belle histoire. Et cette histoire est la fameuse histoire sur la montagne du serpent. Le mot français « crotal » vient de « quatl », hein, c'est le serpent sonnette. Alors, la montagne du serpent, Tepec est montagne. Donc, sur Coatepec, Huitzilopochtli, sa mère, qui est Coatlicue, la femme à la jupe de serpent, et au sommet de la montagne, elle va tombée enceinte d'une boule de plumes qui tombe du ciel, elle va donner naissance à Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, ce héros ancestral, est un héros strictement mexica. Mais c'est aussi un avatar, je dirais, de l'astre solaire, de Tonatoué. Et il va faire la lutte contre sa sœur qui veut le tuer, qui est la lune Coyolxocuy. Et Coyolxocuy va prendre d'assaut la montagne pour aller tuer Coatlicue, sa mère, puisqu'elle a déshonoré sa fille et ses 400 frères qui sont les étoiles de la nuit. Et c'est dans cette bataille de nature cosmologique que va s'établir l'un des principes fondamentaux du pouvoir mexica, c'est-à-dire que le soleil doit chaque jour se battre contre la nuit afin de régner, qu'il doit être par la suite nourri par le sacrifice humain pour pouvoir compléter sa course dans le ciel. Et le Templo Mayor, le côté sud du Templo Mayor, est en fait Coatepec, la montagne, avec Coyolxocuy, qui a été une pierre de plus de 3 mètres de côté, qui a été trouvée lors des premières fouilles de 78 au Templo Mayor, et qui est en fait une pierre sculptée qui représente cette déesse démembrée, jetée au bas du temple, et au sommet victorieux se tient Huitzilopochtli.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Steve Bourget, ce mythe légitimera le pouvoir, mais aussi la guerre. D'ailleurs, sur la pyramide, comme vous le disiez, du Temple Mayor, les deux dieux sont représentés.
Oui, il y a ce dieu Huitzilopochtli, le dieu du soleil, le dieu... en fait, c'est une structure qui est dualisée. Alors, d'un côté, vous avez le soleil, la saison sèche, la guerre, Huitzilopochtli, qui est le soleil qui est toujours victorieux sur sa sœur et les 400 frères de la nuit. Et de l'autre côté, vous avez le côté de l'humidité, de la pluie et d'un dieu ancestral qui est Tlaloc, le dieu de la pluie. Et ce côté-là est vraiment dédié à la fertilité, à la croissance des plantes, à tout.
Tlaloc, c'est un dieu très important.
C'est un dieu important et c'est un dieu stratégiquement bien choisi par les Mexicains. C'est-à-dire que c'est un dieu qui est partagé par l'ensemble des sociétés complexes de la Mésoamérique depuis plus de 2000 ans à l'époque Mexica. Et donc, ils vont judicieusement, encore une fois, mettre en dualité, d'un côté, un héros ancestral, un héros tout neuf, qui est Huitzilopochtli, qui n'appartient qu'aux Mexica, et de l'autre côté, un dieu de la pluie qui déjà est bien existant chez les Mayas. Il s'appelle Chac. Il est à Teotihuacan. Il est dans la région de Veracruz et tout cela. Donc, c'est vraiment une belle démonstration du rapport entre idéologie politique et religion.
Justement, alors, le mythe dont on parlait, à savoir ce dieu du soleil et de la guerre tuant sa sœur, légitime-t-il réellement le pouvoir et surtout la guerre?
Est-ce qu'il le légitime? C'est une excellente question. Est-ce qu'il le rend inéluctable plutôt? Je pense que c'est le cas. Je pense que, à mon avis, moi je suis surtout spécialisé sur le Pérou, l'Amérique du Sud, mais très souvent les systèmes idéologiques doivent, pour être bien acceptés par les populations, doivent être présentés comme étant justes, nécessaire et presque inscrit dans la nature. Alors, c'est une bonne façon, à mon avis, de bien démontrer qu'il est absolument nécessaire à cet empire d'être victorieux, d'être guerrier pour pouvoir exister. Mais il y a un autre aspect, il y a un aspect économique, c'est-à-dire que Tenochtitlan est une ville de 200 000 habitants qui est inscrite dans un environnement qui est densément peuplé par d'autres groupes, et la superficie agricole pour une ville de 200 000 habitants, pour les Mexicains, n'est pas suffisante. Alors, ils doivent, en fait, aussi maintenir des sociétés sous contrôle pour pouvoir nourrir la ville.
Comment se présente l'espace cérémoniel principal, donc dans la ville de Tenochtitlan, ce que l'on appelle le Templo Mayor? Il y a toute une série d'ensembles, 78 bâtiments, paraît-il.
Oui, il pourrait y avoir...
Il y a des descriptions très belles des conquistadors.
Oui. D'après Leonardo...
Des Saragouines
non, López Luján. Et d'après lui, d'après le commissaire de l'expo principal, il y aurait eu entre 60 et 80 bâtiments, effectivement, dans une enceinte cérémonielle qui fait un peu plus de 800 mètres de côté et au centre duquel est trône vraiment le Templo Mayor. Alors, ce qui est en fait le Templo Mayor, c'est littéralement le centre du monde pour les Mexicas. C'est-à-dire, c'est l'endroit où se réunit le ciel, la terre et l'inframonde. C'est l'endroit où il y a quatre directions qui réunissent les régions symboliques de la terre et les régions aussi, bien sûr, est-ouest, nord-sud. C'est vraiment cet endroit. Et c'est entouré d'une série d'objets rituels, d'édifices, dont jeux de balles, un présentoir de crânes humains qui sont obtenus lors des sacrifices, des endroits cérémoniels pour les gardes rapprochés de Moctezuma, des temples, des palais, etc.
L'enceinte cérémonielle principale donc du Templo Mayor est un centre cosmogonique vers lequel convergent d'innombrables dons somptuaires provenant de tous les coins de l'Empire.
Oui, et surtout de tous les coins de l'Empire. Je dirais. Ce qui est fascinant, c'est que dans toutes les fouilles effectuées depuis 40 ans, on n'a pas trouvé une seule espèce de poisson lacustre dans les offrandes. Ce sont toutes des poissons d'origine du Pacifique, d'origine marine ou du Golfe du Mexique. Et on a trouvé plus de 700 espèces d'animaux. Il y a du jade, du poisson-scie, des crocodiles, des oursins de mer.
Choses exotiques et rares.
Non seulement exotique et rare, mais à la limite de l'Empire. Alors, c'est vraiment aussi, on va chercher ce qui est... les doigts de l'Empire vont dans l'océan Pacifique. Ils vont chercher les animaux, ils les ramènent vivants à Tenochtitlan.
Aquarium.
On les garde dans des vivariums. Il y a un zoo que Moctezuma garde à côté de son palais, et on va même nourrir, par exemple, le loup qui est le puma et les oiseaux qui sont dans notre exposition. Mes collègues ont testé les eaux pour pouvoir voir l'alimentation. Ils ont découvert qu'ils étaient certains étaient nourris avec des tortillas. Donc, les pumas ne mangent pas des tortillas en forêt. Donc, j'ai l'impression qu'ils étaient bien dans un zoo. Ils vont être. Il y a un oiseau entre autres qui a une aile cassée qui va se ressouder, mais qui ne peut pas voler, qui est nourri. Alors, ils vont être éventuellement amenés au Templo Mayor. Ils vont être sacrifiés comme des humains. On va leur arracher le cœur et ils vont être enterrés quelquefois comme des guerriers avec des objets en or.
Il ne faut pas oublier aussi l'or, du jade, de la turquoise, des plumes multicolores. Steve Bourget, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ces offrandes permettent de percevoir la pensée religieuse mexicaine.
Oui, cela nous permet de voir une des pensées religieuses mexicaines, car c'est une pensée dédiée au pouvoir, dédiée à l'endroit le plus, oh mon Dieu, le plus chargé de l'Empire. Alors, il faut faire attention, car il ne faut surtout pas extrapoler complètement la pensée religieuse mexicaine par rapport aux offrandes. On risque de les considérer d'une façon très curieuse. Mais ça s'inscrit dans un monde qui est habité par des forces un peu de type animiste, mais il y a des dieux pour tout. Hein. Il y a près de 200 dieux différents qui s'entrecroisent dans le panthéon mexicain.
L'équilibre du monde est précaire et les dieux perdent bien sûr progressivement de leur force. Les hommes ont été créés pour les vénérer et les nourrir au travers de rituels. Quantité d'offrandes, donc animales, sont présentes, dont justement un extraordinaire loup décoré de parures.
Oui, il y a des choses. Bon, comme toi et moi, nous sommes archéologues, alors c'est vraiment le paradis des archéologues, le Templo Mayor, soyons clairs, hein, vraiment. Et il y a peu de fouilles dans le monde avec des objets d'une telle complexité. Alors, chaque offrande peut contenir plusieurs centaines d'objets. Une offrande, c'est souvent une ouverture dans le sol qui peut être rectangulaire, qui est quand même assez grande, qui peut faire jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50 de long par 80.
Une sorte de cache.
Ouais, une cache ou des fois un coffre. Et on va y déposer toutes sortes de choses, dont dans ce cas-là, un loup qui est un guerrier mexica comme un guerrier humain. Alors, on lui a mis des insignes de pouvoir en or. On peut l'imaginer, parce qu'il ne restait que les os, mais on peut l'imaginer qu'il avait certainement un habit de guerrier mexica, mais on lui avait retiré le cœur avant de le déposer dans sa cache.
Il y a aussi deux faucons en armure d'or.
Il y a deux faucons avec des offrandes en or qui, eux aussi, faisaient partie de cette même idée des animaux, des super prédateurs liés à la guerre, mais liés aux confins de l'Empire, toujours.
Ça marche aussi chez les Mayas. Dans la pyramide de la Lune, on a des animaux extrêmement dangereux qui sont enterrés, l'aigle, etc.
Oui.
Ça va du même ressort, tout ça.
Oui, ce n'est pas unique au Mexique. Et aussi, il faut souligner, car bien sûr, quand on voit l'exposition, on en ressort avec l'idée que c'était des gens qui étaient très sanguinaires et qui pratiquaient énormément le sacrifice humain. C'est tout à fait vrai. Mais le sacrifice humain est une constante dans toutes les sociétés complexes de Mésoamérique.
Voir l'œuvre de Baudès, qui a beaucoup travaillé, Claude Baudès, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Et on lui rend bien sûr un hommage.
Oui.
Dans les offrandes les plus complexes, les prêtres ont créé les 3 niveaux verticaux du cosmos. Vous dénommez ces dépôts des cosmogrammes?
Oui, c'est l'expression utilisée par mes collègues qui ont fouillé ce dépôt.
Donc l'inframonde, le monde et...
Et le ciel.
Et le ciel.
Oui, tout à fait. Et on retrouve un peu cette idée aussi en Amérique du Sud. Hein. Moi, j'ai fouillé une tombe Mochica, c'est-à-dire de la côte nord du Pérou, et les insignes du pouvoir du dirigeant étaient liés au hibou, à l'araignée et à la pieuvre. Donc, encore une fois, 3 niveaux qui liaient ensemble le cosmos, je dirais.
Le sacrifice humain est une constante dans le monde mésoaméricain. Le but ultime et le prix à payer est bien sûr de retarder l'usure des dieux. Un codex mentionne 80 000 sacrifices en quelques jours. Combien les archéologues ont-ils retrouvé?
Oh, la grande question des
1500.
Sacrifices humains. Oui. Quelques centaines de ce qui a été retrouvé, si on compte tous les crânes humains, entre autres, dans ce qui reste du site. Bon, maintenant, Au niveau du sacrifice humain, la quantité d'individus sacrifiés, il est impossible d'être certain, mais moi je crois qu'un grand rituel mexica pouvait compter plusieurs centaines de victimes sacrificielles.
L'élément principal est bien sûr le cœur. Le corps est d'ailleurs consommé, mais le crâne rejoint une structure qui a été découverte en 2015, le fameux râtelier de crâne.
Oui, il y en a plusieurs des râteliers de crâne, mais celui qui a été découvert, disons que pour le, je m'arrête au mot consommer, il y a une consommation à l'occasion rituelle de parties du corps humain. C'est une forme d'anthropophagie rituelle qu'on connaît assez bien, un peu partout, mais ce n'est pas, il n'y a pas beaucoup de recettes, je dirais, autour de cette pratique. Mais le Huitzompantli, qui veut dire le grand Zompantli, a été découvert il y a à peine en 2015 lors de travaux de sauvetage archéologique, juste en avant du Templo Mayor.
Il était décrit, dans une maison.
Il était décrit. Il était connu dans la littérature, mais ils ont finalement trouvé un objet que j'ai eu le plaisir de voir lors des fouilles, qui est extraordinaire. Et c'est une plateforme sur laquelle on avait des poteaux qui faisaient jusqu'à 5 mètres de hauteur et qui servaient à enfiler ces centaines de crânes les uns après les autres. Ce n'était pas des crânes. En fait, on enfilait des têtes coupées. Et après que la peau et les restes avaient pourri, étaient défaits, il reprenait ses crânes et il les utilisait pour toutes sortes de choses, dont nous en avons dans l'exposition qui proviennent de ce Zompantli, qui ont été transformés en objet d'art, je dirais. Mais les autres étaient mis dans deux tours à chaque extrémité de la plateforme. Alors, ces deux tours contenaient des centaines ou quelques milliers de crânes humains.
Il existe d'ailleurs une très belle illustration dans le Codex Duran, mais aussi une belle description faite par le franciscain Bernardino de Sahagún, qui est un compagnon bien sûr de Cortés, et qui décrit les mouches autour de ces crânes. Les ravages des conquistadors, la ferveur chrétienne, comme les siècles passants, ont-ils mis fin à toutes ces croyances ? Ou tout au contraire, un syncrétisme aurait-il pu avoir été créé?
Oui, il y a une forme, un syncrétisme peut-être, je ne sais pas si c'est exactement la bonne façon de le décrire, mais il y a certainement une certaine continuité des pratiques en Mésoamérique qui est très forte. D'ailleurs, dans l'exposition, nous terminons l'exposition avec une section sur des groupes qui parlent nahuatl et qui sont des otomis qui font encore des rituels à la terre, à la fertilité, dans des caches, dans des offrandes qu'on met même dans des trous dans la terre pour pouvoir se mettre en bonne relation, je dirais, avec les dieux de la fertilité.
Et on fait verser un peu de sang parfois aussi tous
oui,
les jours.
Oui, des poulets, des dindons. Les bonnes coutumes se sont perdues, mais on est encore aux poulets et aux dindons.
Steve Bourget, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre exposition, Mexica, des dons et des dieux au Templo Mayor, qui vient bien sûr de s'ouvrir au musée du Cap Branly Jacques Chirac. Exposition exceptionnelle d'une archéologie en train de se faire. Carbone 14 a été réalisé par Émilie Vallat. À la technique Sébastien Royer et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.